À Ouagadougou, 22h à Niamey. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Après le bulletin d'information, nous évoquerons le nouvel afflux massif de migrants au large de l'Italie. Nous serons au Niger pour notre dossier.
Je crois que l'arrivée des trains, c'est une opportunité aussi, je dis, pour le ravitaillement de nos marchandises et surtout pour le ravitaillement de notre pays à temps et à des coûts moindres.
Le Niger, qui a dorénavant sa première gare ferroviaire inaugurée en début de semaine. Reportage d'Abdoul Razak Idrissa. Dans notre rubrique Fenêtre sur l'Afrique, nous aborderons l'homosexualité, toujours illégale et criminalisée en Afrique. Témoignage d'homosexuels africains qui cherchent à obtenir l'asile politique aux États-Unis, seul gage de leur survie. Enfin, entretien avec Mahamadou Issoufou, président du Niger, à l'occasion du 3e anniversaire de son arrivée au pouvoir. Une exclusivité de la Voix de l'Amérique. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Jean-Roger Billon à ce microphone. Bonsoir à tous. En République centrafricaine, 9 généraux de la CELECA ont appelé hier à la cessation des hostilités. De nombreux affrontements ont été signalés entre anti-Balaka et ex-CELECA Dekoa au centre du pays. Le bilan provisoire a fait état d'au moins une trentaine de civils tués et plusieurs autres blessés. Idrissa Fall.
Les affrontements ont éclaté aux environs de 5 heures du matin et ont duré au moins 4 heures. La majorité des victimes étaient des civils qui ont été pris pour des anti-Balaka par un renfort des ex-CELECA venus de Kagabandoro. Des scènes de pillage ont suivi et une partie de la population a fui en brousse ou vers l'église Sainte-Anne. À Bangui, 9 généraux de l'ancienne coalition rebelle ont appelé à la cessation des hostilités et à la poursuite du désarmement. Mustapha Aboubakar, porte-parole des ex-CELECA.
Notre volonté irréversible de préserver la paix s'explique par notre acceptation du cantonnement de tous nos éléments à Bangui et en province. Nous en appelons aux forces internationales de poursuivre le travail déjà entamé et de faire accélérer le processus du DDR.
Par ailleurs, les États-Unis ont donné 37 véhicules et du matériel militaire à la MISCA. La remise a été faite à la base militaire Poco par Samantha Power, représentante américaine à l'ONU.
As terrible as the situation here remains.
La situation reste terrible et cela pourrait être bien pire sans vos efforts pour protéger les civils, désarmer les milices et créer des zones sûres pour les familles.
Selon Samantha Power, 200 autres véhicules vont bientôt arriver à Bangui et le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter demain le déploiement d'une force de maintien de la paix en Centrafrique.
Nouvel afflux de migrants au large de l'Italie. Quelques 4000 migrants africains ont été secourus en 48 heures par l'Italie et plus de 15 000 depuis le début de l'année, affirme le ministre de l'Intérieur Angelino Alfano. Flavio Di Giacomo, porte-parole de l'OIM à Rome, interrogé par Nicolas Pilot.
Plus de 3 000 personnes entre hier et aujourd'hui vont arriver en Sicile. Ça fait partie des opérations de secours de l'opération Mare Nostrum, qui est l'opération de la marine militaire italienne, qui donne secours aux migrants qui se trouvent dans le Méditerranée et transfèrent les migrants en Sicile après le sauvetage. Le pays de départ, c'est la Libye. Il y a beaucoup d'Érythréens qui sont arrivés, des Syriens, des gens qui viennent de la Somalie et beaucoup d'Africains subsahariens. D'ailleurs, en 2013, il y a une majorité, un grand nombre de personnes qui échappent des situations de guerre ou des régimes autoritaires.
Aux États-Unis, un étudiant armé d'un couteau a blessé 19 de ses camarades de classe et un adulte dans une école secondaire de Pennsylvanie. Cela s'est passé aujourd'hui à Franklin Regional High School, à Murrysville, une banlieue de Pittsburgh. Un porte-parole des services d'urgence a indiqué que 4 des personnes semblent avoir été grièvement blessées, mais elles devraient survivre. 7 victimes sont dans un état grave. L'Ukraine hausse le ton face à des velléités sécessionnistes dans 3 régions de l'est du pays. Le ministre de l'Intérieur a averti que la crise avec les manifestants pro-russes doit être résolu dans les 48 heures. Kiev menace d'utiliser la force en cas d'échec des négociations. Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde Kiev contre toute action irréparable, tout en exprimant l'espoir sur les possibles discussions sur l'Ukraine la semaine prochaine. De leur côté, les États-Unis ont exprimé leur scepticisme quant aux éventuels résultats de tels pourparlers prévus en principe le 17 avril à Vienne. Les discussions sur le nucléaire iranien se poursuivent pour une seconde journée à Vienne. La capitale autrichienne, elle regroupe des représentants de Téhéran, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie et l'Allemagne. D'après la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, ses pourparlers vont passer à l'étape suivante le mois prochain avec un nouveau cycle de négociations. L'objectif est de parvenir à un accord d'ici la fin juillet, assurant le caractère pacifique du programme nucléaire iranien. Et puis, au Pakistan, au moins 22 personnes ont été tuées, une centaine d'autres blessées dans l'explosion d'une bombe sur un marché d'Islamabad. L'attaque intervient au lendemain d'un attentat ferroviaire ayant fait 17 morts dans la province du Baloukistan. La Voix de l'Amérique, la suite de Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel+, et nous ouvrons l'émission une fois encore par ce nouvel afflux massif de migrants au large de l'Italie. Quelques 4000 migrants ont été secourus en 48 heures par l'Italie et plus de 15 000 depuis le début de l'année, affirme le ministre de l'Intérieur Angelino Alfano. Nicolas Pino a joint à Rome le porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations, Flavio Di Giacomo.
Plus de 3000 personnes entre hier et aujourd'hui vont arriver en Sicile. Ça fait partie des opérations de secours de l'opération Mare Nostrum, cette opération de la marine militaire italienne qui donne secours aux migrants qui se trouvent dans la Méditerranée. Et bon, ils transfèrent les migrants en Sicile après le sauvetage. Le pays de départ, c'est la Libye. Il y a beaucoup d'Érythréens qui sont arrivés, des Syriens, des gens qui viennent de la Somalie et beaucoup d'Africains subsahariens. D'ailleurs, en 2013, il y a une majorité, un grand nombre de personnes qui échappent des situations de guerre ou des régimes autoritaires.
Flavio, on parle beaucoup de leur arrivée, mais qu'est-ce qui se passe pour eux après ?
Dans ce moment-là, la situation, c'est que le gouvernement italien, une fois que les personnes sont arrivées en Sicile, transfère les personnes dans les municipalités et dans toute l'Italie. Et donc, les migrants sont transférés dans des centres de réception, dans des hôtels ou dans des écoles qui sont vides. Bon, les municipalités cherchent de trouver des endroits où pouvoir donner un accueil décent, on peut dire, aux personnes qui arrivent. Ça, c'est pour l'émergence, bien entendu. Mais après, il faudra voir ce qui va se passer.
Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'on leur accorde l'asile ? Quelle est en général l'issue pour ces personnes ?
Bon, en général, comme je vous avais dit, en 2013, et maintenant la situation c'est à peu près pareil, même les arrivées sont un peu augmentées, il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche de protection. Vous avez dans ce bateau, il y a des groupes mixtes, il y a des groupes vulnérables, donc il y a les personnes qui les demandeurs d'asile, mais aussi les mineurs qui ne sont pas accompagnés, les femmes qui sont victimes de traite, donc il y a des groupes vulnérables qui ont des droits, selon la loi italienne, de recevoir une quelque forme de protection, soit comme réfugiés ou protection humanitaire, ou même avec des autres genres de protection.
Flavio Di Giacomo, porte-parole de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel+, sur la Voix de l'Amérique, et sur le 99.4 FM à Mamou, en Guinée, sur la radio Bolivar. Et nous sommes au Niger pour notre dossier. Le Niger, dont la capitale Niamey, a enfin sa première gare ferroviaire depuis le début de la semaine. C'est aussi la première gare du pays. Elle a été inaugurée par le président Mahamadou Issoufou, qui commémorait le 3e anniversaire de son arrivée au pouvoir. Cette inauguration marquait aussi le lancement du tronçon nigérien d'une boucle ferroviaire qui reliera 5 capitales de l'Afrique de l'Ouest, Lomé, Cotonou, Niamey, Ouagadougou et Abidjan. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
C'est le groupe Bolloré qui finance l'ensemble de ces travaux et prend tous les risques.
C'est un vieux rêve des Nigériens qui voient ainsi son début de réalisation. Tous les chemins de fer de la sous-région ouest africaine devaient en effet finir à Niamey, la capitale du Niger, dont un des quartiers est même dénommé Terminus. Depuis son accession à la magistrature suprême en 2011, le président Issoufou Mahamadou s'est engagé pour que ce rêve du peuple se réalise sous son mandat et il a choisi le jour anniversaire de son investiture pour commencer à le concrétiser.
Le chemin de fer est historiquement né dans les mines. Il est heureux que ça soit à un ingénieur des mines que l'histoire ait donné la chance de le promouvoir au Niger. Je suis sûr que chaque Nigérien et chaque Nigérien saisit la portée historique de l'événement, la présence nombreuse des habitants de Niamey en constitue une preuve éloquente. Désormais, Niamey mérite qu'un de ses quartiers porte le nom de Terminus. C'est cela la promesse que j'ai faite au peuple nigérien.
Une simulation de l'arrivée du train à la gare a été faite sur les 500 mètres de rails déjà construits par la société Bolloré. Et dans la joie, beaucoup y voient déjà l'impact du train dans l'amélioration de l'économie nigérienne. Alma Oumarou, ministre du Commerce, et Moussa Sidi Mohamed, président de la Chambre de Commerce.
J'ai désormais tout ce que nous importons. Certainement connaîtra une baisse significative et ce que nous exportons également.
Je crois que l'arrivée des trains, c'est une opportunité aussi, je dis, pour le ravitaillement de nos marchandises et surtout pour le ravitaillement de notre pays à temps et à des coûts moindres.
C'est donc cet important événement qui a marqué le 3e anniversaire de l'investiture du président Issoufou Mahamadou à la tête du Niger. Déjà, la veille de cet anniversaire, il a dressé dans un message à la nation un bilan satisfaisant de la mise en œuvre du programme politique sur la base duquel il a été élu. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour la Voix de l'Amérique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 101.9 FM à Agadez, au Niger, sur la radio Nomade. Dans notre rubrique « Fenêtre sur l'Afrique », nous évoquons aujourd'hui l'homosexualité, toujours illégale et criminalisée dans 38 pays africains. Le Nigeria et l'Ouganda ont récemment adopté des lois qui durcissent la répression des actes homosexuels. Un nombre de gays, lesbiennes et transsexuels africains tentent aujourd'hui de chercher l'asile politique ici aux États-Unis. Pour la communauté homosexuelle ougandaise, il s'agit même d'une question de vie ou de mort. Jacques Aristide.
Nikki Mawanda a récemment fui son pays.
Je peux vous dire que la situation est terrible en Ouganda. Les gens ne savent pas ce qui se passe là-bas. Je suis inquiet pour ma communauté. Et je crains aussi pour moi car je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver si je devais rentrer au pays.
Nikki fait partie de quelques 60 Ougandais qui ont fait depuis le début de l'année la demande d'asile politique aux États-Unis.
They staged a big prayer.
Dans mon pays, les gens avaient organisé une grande prière à côté de la maison de ma mère pour me demander de quitter le village où, selon eux, j'apportais l'homosexualité. Je ne voulais pas abandonner mon village, mais cette fois-ci, c'était trop. J'avais tellement peur, j'avais donc décidé de partir.
Ainsi, les gays, lesbiennes et transsexuels africains font appel à l'aide des gens comme Jocelyn Dyer, une avocate au sein de l'ONG Human Rights First.
Nous sommes très préoccupés par ces lois répressives, car à cause d'elles, la situation va de mal en pis.
En effet, l'homosexualité est passible de la peine de mort dans 4 pays africains. En Ouganda, c'est la prison à vie. Stephen Taylor, professeur de politique africaine à l'American University.
La prison à vie peut être pire que la peine de mort, compte tenu des conditions de détention dans certaines prisons.
Menaces de mort et brutalité policière, c'est ce qui a poussé le transsexuel ougandais Victor Mukasa de quitter son pays pour s'installer aux États-Unis il y a moins d'un an. Il y a eu effectivement des victimes, comme l'ougandais David Keto, défenseur des droits des homosexuels, assassiné en 2011. À ses funérailles, une foule anti-gay avait même tenté de semer la terreur.
Le reportage « Les homosexuels ougandais cherchent à obtenir l'asile politique aux États-Unis » est signé de Carla Babb et Mike Cornelly du service anglais de La Voix de l'Amérique. À l'occasion du 3e anniversaire de son arrivée au pouvoir le 7 avril, le président nigérien a accordé un entretien à La Voix de l'Amérique. Mahamadou Issoufou était à Rome pour un sommet sur la sauvegarde du lac Tchad.
Vous savez, le lac Tchad qui avait une superficie de 25 000 km² en 1963 est réduit aujourd'hui à une superficie de d'à peine 2500 km². Et si rien n'est fait, le lac va totalement disparaître dans les prochaines années. Et cela va être une grande catastrophe écologique pour la sous-région, non seulement pour la sous-région, mais pour la planète entière. Je ne pense pas qu'il soit trop tard. Il est encore temps de prendre des dispositions pour sauvegarder le lac Tchad. Et je pense que l'appel qu'on a lancé à Bologne, au bailleur de fonds et à la communauté internationale a été entendu. Donc, nous avons le soutien de l'essentiel des bailleurs de fonds en vue de mettre en œuvre le plan quinquennal qui est prévu 2013-2017 en vue de créer les conditions de la sauvegarde du lac Tchad.
Monsieur le Président, autre ressource naturelle dont les Nigériens attendent beaucoup, c'est l'uranium. Le Courcelles d'Areva était récemment à Niamey. L'accord serait proche. Est-il enfin conclu?
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait plusieurs mois que nous sommes en train de négocier avec nos partenaires. Et l'objectif pour le Niger, c'est d'avoir un partenariat équilibré, un partenariat gagnant-gagnant. Et je pense que cet objectif est sur le point d'être atteint. Nous sommes, pour l'essentiel, très proches d'un accord et certainement dans les prochains jours, on va procéder à sa signature.
Pouvez-vous garantir que le peuple nigérien sera le vrai bénéficiaire de cet accord alors que votre pays reste l'un des plus pauvres au monde?
En tout cas, c'est l'objectif que je me fixe, que ce soit l'uranium ou les autres substances qui sont extraites au Niger, le pétrole, l'or, etc. Mon objectif, c'est que les ressources tirées de l'exploitation de ces ressources profite effectivement au peuple nigérien. Surtout que j'ai été élu sur la base d'un programme très ambitieux qui a pour objectif de répondre aux attentes des Nigériens.
Est-ce que l'État français, actionnaire majoritaire d'Areva, a facilité cet accord?
Écoutez, on a discuté avec Areva, on n'a pas discuté avec l'État français.
Est-ce que vous êtes satisfait de la coopération sécuritaire avec les Français et les Américains? Demandez-vous plus?
Nous sommes satisfaits de la coopération avec tous nos partenaires. Vous savez que le Sahel est soumis à des menaces, le terrorisme, le crime organisé, etc. Et nos partenaires nous ont beaucoup soutenus ces derniers mois, surtout en rapport avec ce qui s'est passé au Mali. Le terrorisme en particulier a été très fortement affaibli, mais cela ne veut pas dire qu'on l'a définitivement vaincu. Donc nous avons besoin encore de l'aide et du soutien de nos partenaires extérieurs afin d'éradiquer totalement le terrorisme du Sahel. La solution contre le terrorisme n'est pas que sécuritaire, hein. Elle est aussi liée au développement économique et social, parce que la pauvreté est le principal allié, on le sait, du terrorisme. C'est pour cela que nous avons besoin de nos partenaires, non seulement en matière de coopération sécuritaire, mais également en matière de coopération dans le domaine du développement économique et social.
Mahamadou Issoufou, au micro de Nicolas Pinault. Nous retrouverons demain la suite de cet entretien exclusif avec le président du Niger. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la console, Souleymane Tarawali. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec la chanteuse soudanaise Al Sara et son morceau Wad Al Nouba. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.